Un jour, on a été invité à marcher avec Jésus. On a été invité à marcher avec Dieu. Et ben, effectivement, si ce n'est pas le cas, ce matin, si parmi nous, il y a des personnes qui n'ont pas eu cette invitation, alors il ne s'agit pas d'un petit papier, mais il s'agit de quelque chose que Dieu fait dans le cœur de, dans notre cœur et qui nous parle, par lequel il nous invite à marcher à sa suite, il nous invite à le suivre, il nous invite à cheminer avec lui. Et pour la plupart, je pense que ça fait plusieurs années, pas mal d'années pour certains, on chemine avec Jésus. Mais c'est toujours agréable, c'est toujours extraordinaire de voir comment Dieu peut toucher une personne. Et on a vite fait d'oublier comment est-ce que Dieu nous a touchés. Est-ce que vous vous rappelez comment ça s'est passé? Oui, bien sûr, vous allez dire, oui, je me rappelle comment je me suis converti, mais est-ce qu'on se rappelle, est-ce qu'on se remémore, est-ce qu'on commémore quelque part la manière dont Jésus nous a touchés? La manière dont il s'est approché de nous, est-ce qu'on s'en rappelle? Est-ce qu'on se souvient de ces moments où il a touché notre cœur, où il a changé toute chose, où il a changé notre vision du monde, notre vision de ce qui nous entourait? Amen.
Amen.
Cette semaine, j'ai ma sœur qui est au Chili, hein, ça fait un peu loin, c'est de l'autre côté de la planète, qui m'envoyait des textos, enfin par WhatsApp. Elle me disait, ouais, Jean-Philippe, faudrait qu'on s'appelle un soir, c'est vrai. Alors, c'est, ça fait une semaine que ça dure, faudrait qu'on s'appelle un soir, et puis tous les soirs, on oublie, et puis il y a le décalage horaire, et puis il y a tout un tas de choses. Et jeudi dernier, elle m'envoie un message, elle me dit, Jean-Philippe, faudrait vraiment qu'on s'appelle. J'ai fait, oui, on va essayer de s'appeler, encore une fois. Et là, elle m'écrit, Jean-Philippe, j'ai donné mon cœur à Jésus. Alors, j'ai lu le message, j'ai dit, elle me fait une blague. Elle sait que là, je vais appeler. Elle sait que là, je risque pas de... J'ai fait, non, mais alors, on était entre deux choses, donc on pouvait pas s'appeler à ce moment-là, elle aussi. Mais j'ai dit, mais t'es sérieuse? Oui. Je fais, bah alors là, c'est sûr, le soir, on s'est appelé, on a discuté, on a parlé. Et effectivement, ma sœur a donné son cœur à Jésus. Et ça fait bizarre. Elle est venue déjà une fois, une ou deux fois ici, il y a un certain temps. Et ça fait bizarre de connaître, de voir une personne qu'on a connue et qui était toujours réticente ou hésitante ou je ne suis pas convaincue, à un moment donné, dire avec autant d'aplomb, j'ai donné ma vie à Jésus, maintenant je ne vois plus les choses de la même manière. Ça fait vraiment... C'est assez étrange, c'est une étape qu'on passe. Là, je ne vais plus parler avec ma sœur. Ma sœur, je vais parler avec ma sœur en Christ aussi. Alors bien sûr, elle m'a dit, bon, c'est quand même du cheminement à faire, hein, parce que y a quand même des choses. Je fais, t'inquiète pas, le Seigneur va s'occuper de tout. Mais on a vite fait d'oublier ce moment où un jour, Jésus nous a sauvés. Nous a sauvés véritablement parce qu'on était dans tout un tas de situations dans lesquelles, peut-être pas forcément hyper mauvaises, hein, mais tout un tas de situations dans lesquelles on menait bon train. Et un jour, Dieu nous rattrape et nous dit, c'est maintenant le moment. Et ce qu'elle m'a dit, c'est que ça fait tellement d'années qu'on lui parle de Jésus avec mon autre sœur, ça fait tellement d'années, elle le sait, elle comprend, elle entend, mais là, à ce moment-là, elle sentait un vide dans sa vie, elle sentait un vide dans son cœur qui l'a poussée à dire « Aide-moi, Jésus ». Et nos vies sont comme ça, où eh bien, parfois il faut qu'on soit poussé jusqu'à une extrémité, jusqu'aux extrémités de notre vie, jusqu'à être au bord de la falaise. On a déjà parlé au bord de la falaise pour dire « Seigneur, aide-moi ». Parce que là, je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment passer de l'autre bord. Et Proverbes chapitre 19, verset 21 nous dit « Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit ». Et je sais que beaucoup d'entre nous, la plupart d'entre nous, j'espère tout le monde, on parle, on témoigne, on essaie de parler à des gens qui sont autour de nous de ce que Christ a fait pour nous. Et peut-être on ne voit pas ce fruit-là. On parle, les gens rigolent, ou les gens font une petite mine, et puis bon, ils vont regarder un petit peu de l'autre côté, et on est là et on ne voit pas où mène ce témoignage-là. On ne voit pas où conduit notre témoignage. Mais ce que j'ai compris, c'est qu'il y a un temps pour toute chose. Et nous sommes appelés à semer la parole de Dieu, à semer Pas forcément pour que nous la voyions, si nous la voyons, c'est bien, gloire à Dieu. Mais moi, je sais que dans ce témoignage que je viens de donner, il y a du temps qui s'est passé. Ma sœur est partie de l'autre côté de la planète. Et en fait, pour dire vrai, elle n'a même pas encore d'église, vraiment. Elle a été dans une église, je ne sais pas vraiment si c'est là. Mais elle a donné sa vie à Jésus parce qu'elle a été touchée par Dieu. Ce n'est pas le fait de venir dans une église, ce n'est pas le fait d'être dans un endroit, c'est le fait que Dieu nous a touché notre cœur, Dieu a transformé notre vie, Dieu a répondu et il a été la réponse à un besoin fondamental de notre vie. Ma sœur a dit, et c'est le témoignage de la plupart, c'est « J'avais un tel vide au-dedans de moi, je courais après une chose, après une autre, je voulais, elle aime bien la photographie, je voulais faire une, je voulais être percée, être reconnue, elle commençait à être reconnue, puis à un moment donné, elle s'est dit « Je suis en train de gâcher quelque chose. » Et si ce matin, il y a des gens qui se posent la question de Jésus ou pas Jésus, ne gâchez pas votre vie. Ne gâchez pas votre vie, ne gâchez pas l'opportunité que Dieu vous donne de marcher avec lui, de le suivre, de vivre une vie pleinement renouvelée dans un regard nouveau, neuf, qui n'est pas le même que celui d'aujourd'hui. La vision et le regard que Dieu veut nous donner, ce n'est pas celle que l'on voit tous les jours. Ce n'est pas celle que l'on regarde. Autour de nous, on peut voir des malheurs, on peut voir des difficultés, on peut voir les problèmes d'argent, on peut voir tout un tas de choses. Mais il y a bien des gens qui marchent avec foi et qui disent « Mais moi, tout va bien dans mon cœur. J'ai la paix. » Même si la tempête est autour, même si les vents soufflent, même si tout autour de moi, tout s'écroule, tout s'effondre, j'ai la paix au fond de moi. Et cette paix, c'est cette paix que la plupart des gens recherchent. C'est cette paix que nous cherchons souvent avec avidité et que nous essayons d'aller dans une chose, dans une autre, dans une passion, dans une autre, dans d'autres choses. Mais cette paix, nous tournons autour du pot, nous tournons autour du centre qui est Jésus-Christ, le besoin fondamental de notre vie, le besoin fondamental de notre salut, le besoin par lequel nous pouvons avoir une réponse qui va transformer toute notre vie. Paul était un homme de foi. On est d'accord avec ça ? Mais avant d'être un homme de foi, un homme pleinement de foi, c'était un homme de loi. C'était un homme qui marchait selon ce qu'il fallait faire ou ne pas faire. C'était un homme qui marchait selon des peurs parce que c'était un persécuteur d'église. Quelqu'un que personne n'aurait misé sur lui. Personne n'aurait misé sur cette personne, sur cet homme-là. Qui, et d'ailleurs, j'imagine bien facilement les chefs religieux se dire « Celui-là, nous pouvons avoir confiance ». C'est quelqu'un qui a été éduqué dans la parole, c'est quelqu'un qui connaît la loi, c'est quelqu'un qui est lettré, qui connaît beaucoup de choses. Nous pouvons avoir confiance en cet homme. Il va faire le ménage pour nous parmi tous ces chrétiens-là qui nous embêtent et qui sont ingérables. Et Paul s'était donné pour mission de faire le ménage des chrétiens, de faire le ménage de ces hommes, de ces femmes qu'il considérait comme étant des opposés à Dieu, des ennemis de Dieu. C'était sa vision, c'était la vision qu'il avait à ce moment-là. Et il tuait des hommes. Alors en même temps, il nous a raconté l'histoire d'Étienne. Étienne qui avait posé les hommes qui avaient posé leurs vêtements au pied de Paul, au pied de Saul, à ce moment-là, il s'appelait comme ça, pour aller lapider Étienne, un homme qui parlait selon le cœur de Dieu. Il a été témoin de cette scène. Il a été témoin de cette scène. Et cet homme-là, un jour, Dieu veut le toucher. Il a commis des exactions en nombre. Il a commis des massacres. Des hommes, des femmes qui sont mortes. Et à un moment donné, Dieu a attendu le bon moment pour le toucher. Peut-être aurait-il pu le faire avant. Il y avait un moment particulier où Dieu l'a arrêté sur sa route. L'a arrêté. Saul a vu une grande lumière et par la même occasion, il est devenu aveugle à ce monde. Il a vu la lumière de Christ et dans son péché, il est devenu aveugle à ce monde pendant quelques jours. Et c'est important pour nous autres qui sommes dans la foi, qui voulons marcher avec Christ, de garder la vision du royaume. De ne pas regarder comme, Quand on est né nouveau, la naissance, quand on est nouveau, c'est comme si on était sorti de l'antre de ce monde pour aller à la lumière de Christ. Et ne pas regarder à ces ténèbres qui sont au dehors comme une proie arrachée, mais plutôt à regarder à Christ, qui est notre salut, qui est notre force, qui est notre bienfaiteur. Et Paul, cet homme de foi, avait besoin que Dieu change son regard. Il avait son regard qui était tourné vers la loi, son regard qui était tourné vers le monde, vers les besoins de ce monde. Il était pris dans les taux de la loi. Et pour ceux qui le fréquentaient, pour ceux qui le voyaient, il ne s'agissait surtout pas de croiser son chemin. Et d'ailleurs, quand il est venu à Christ, quand il s'est converti, parce qu'on parle de conversion dans le sens de retournement de situation, de cœur qui change, parce qu'il voit quelque chose de nouveau, et quand on vient à Christ, c'est une chose extraordinaire que de réaliser que nos yeux s'ouvrent sur un monde nouveau. Nos yeux s'ouvrent sur une réalité nouvelle. Et il a eu donc la vision de Dieu, cette vision aveugle. Il avait besoin de trouver ce regard intérieur de la foi. De trouver non pas dans ce qu'il voyait autour de lui, mais de trouver, de pouvoir revenir à l'intérieur de lui-même. Que Dieu lui parle, que Dieu lui dise, voilà où tu en es, et voilà où je veux te conduire. Voilà où je veux te diriger. Et ce ne sont pas donc seulement des mots qui leur ont été donnés, mais c'est une expérience vivante avec Jésus-Christ. C'est une expérience qui a changé sa vie, qui a changé son cœur. Et ça dépasse la définition qu'on peut donner, les mots qu'on peut donner. Des fois, on n'a pas de mots pour s'exprimer devant Dieu. Des fois, on n'a pas de mots pour dire à Dieu notre joie, notre amour. Parce que ça dépasse ce que nos mots peuvent donner. Parce que Dieu nous appelle simplement à vivre, simplement et pleinement l'amour de Dieu. À vivre. Il ne s'agit pas juste de connaître. Il n'y a pas seulement la connaissance. Il faut connaître la parole de Dieu. Il faut connaître ce que Dieu veut nous dire au travers de sa parole. C'est important, c'est le socle de notre marche avec Dieu. Mais avoir et vivre une expérience plénière, entière avec Jésus-Christ. Une expérience avec Dieu. C'est ce qui fait que nos mots ne savent pas sortir de notre gorge, ne peuvent pas sortir. Notre foi n'a de sens vraiment que lorsqu'elle a vécu la présence de Jésus-Christ, la présence de Dieu. S'il s'agit juste de venir et d'aller dans une église, dans certaines églises, on va mettre des cierges, on va faire tout un tas de choses. S'il s'agissait juste de faire ça, alors c'est juste un acte. Mais la vie pleinement que nous pouvons avoir avec Jésus-Christ, c'est pas uniquement le moment où nous allons faire quelque chose. C'est le moment où nous vivons chaque instant, chaque moment par lequel nous vivons la présence de Jésus. Nous vivons la présence de Dieu. Et se souvenir de là où l'on vient, c'est important pour savoir là où l'on va. C'est important. Et le souvenir et la mémoire, même dans la parole de Dieu, est quelque chose qui est noté. Je veux dire, les Juifs célèbrent constamment le souvenir de quelque chose. Ils célèbrent constamment pour se souvenir, pour se rappeler de ce qui s'est passé à un moment. Lorsqu'on lit dans la Bible qu'ils dressaient des autels, qu'ils faisaient des célébrations à droite, à gauche, parce qu'ils se rappelaient, ils marquaient les temps dans lesquels Dieu avait touché leur vie. Ils marquaient les temps, ils s'en rappelaient. Et ils le gardaient et ils le chérissaient. Et nous, peut-être nous marchons, nous progressons. Mais ça, c'est dans la nature de l'homme d'oublier. C'est dans la nature de l'homme d'oublier. Si nous ne rappelons pas à notre mémoire ce que Dieu a fait, tôt ou tard, nous oublions ce qui s'est passé. Que ce soit maintenant ou que ce soit même dans notre vieillesse. Parce que ben, des fois, voilà, la pensée s'efface avec le temps. C'est dans la nature de l'homme. Dieu a fait cela pour que, à la fois, ce qui est bon puisse être rappelé et ce qui est mauvais puisse être oublié. Il nous a laissé entre deux creux, la mémoire et l'oubli, pour que nous puissions travailler la mémoire sur ce que Dieu a fait et l'oubli sur ce que Dieu n'a pas fait. Pour que nous puissions rester du côté de ce que Dieu a fait. Pour que nous puissions marcher avec lui en sachant d'où l'on vient. Garder cultiver le souvenir de la gloire de Dieu par crainte d'oublier. Par crainte d'oublier. Et je sais qu'avec le temps, j'ai des petits oublis des fois, ça m'arrive. De plus en plus, plus que quand j'étais plus jeune. Et c'est là qu'on se dit, c'est vrai, c'est important. C'est important de se rappeler. C'est important parce que tôt ou tard, ben là je me rattrape dans tous les cas. Là je me rattrape, mais ce qui dépasse l'âge, c'est ce que l'on rappelle sans cesse à notre souvenir. Dieu est grand. Voilà, je me souviens tel jour. Et lorsqu'on est dans le brouhaha et dans le bruit sans cesse et constamment, lorsqu'on ne prend pas le temps à un moment donné de s'arrêter, lorsqu'on ne prend pas le temps, on ne prend pas le temps de se rappeler de ce que Dieu fait, de ce que Dieu a fait. Je vais prendre un passage dans le livre de 1 Corinthiens, ça va ? 1 Corinthiens au chapitre 1. 1 Corinthiens au chapitre 1 et versets 17 et 18. Et c'est Paul qui parle. Et ce passage me plaît bien parce que malgré tout ce que l'on connaît de Paul, on pourrait se dire, voilà, quelqu'un qui passe sa vie à témoigner de Christ, à un moment donné, peut-être il pourrait rentrer dans une routine. Peut-être il pourrait, pour lui c'est l'habitude, il va à un endroit, il va prêcher Jésus, il va à un autre endroit, il va prêcher Jésus. Et pourtant, c'est pas ce que Paul définit, lui, comme étant sa, entre guillemets, méthode. C'est pas comme ça que fonctionne Paul. Et Paul dit dans 1 Corinthiens au chapitre 1, il dit « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'Évangile, et cela, sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La prédication de la croix est une folie. Quand Paul parle de ça, il nous parle et il nous dit ce à quoi nous devons nous attendre lorsque nous parlons de Jésus. Lorsque nous parlons de Jésus, le rêve ce serait de parler, de dire voilà, croyez, repentez-vous, croyez en Jésus, et de voir les foules se convertir, comme on peut le lire aussi dans les actes des apôtres. D'un coup, 3000 personnes sont venues à Jésus. Mais la réalité, c'est qu'une personne qui vient à Christ, c'est un combat, c'est une lutte, et c'est le temps qui passe, et par lequel Dieu fait son œuvre et fait son travail. Et dans lequel nous ne sommes pas forcément ceux qui allons voir le fruit, mais ceux qui allons porter cette semence devant le trône de Dieu. Et si on écoute les murmures du monde sans se ressourcer dans la présence et dans la parole de Dieu, peut-être un jour, on va regarder cette croix, on risque de regarder cette croix et de lutter pour dire « Mais c'est pas une folie !» C'est pas une folie, parce que autour de nous, les gens diront « C'est une folie !» Autour de nous, les gens diront « C'est une folie !» Comment est-ce que tu fais pour croire en Dieu ? Comment est-ce que tu fais pour croire en Christ ? Et notre position, elle doit être celle de Dieu. Notre position, elle doit être celle par laquelle nous voyons selon les regards de Christ. Et lorsque Paul parle de ce passage, il dit « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. » Et « Christ m'a envoyé », Paul parle de son appel. Lorsque nous nous présentons quelque part, lorsque nous parlons de Jésus, lorsque nous témoignons, ce n'est pas uniquement nous qui témoignons. C'est uniquement ce que Dieu fait au travers de notre vie. Et peut-être lorsqu'on parle du témoignage, on parle des mots que je vais dire, mais peut-être ça ne s'arrête pas à ces mots-là. Mais ça dépasse les mots parce que notre cœur a été touché par Dieu, notre vie a été transformée, et les gens reconnaissent dans notre vie qu'il y a quelque chose de différent. Peut-être des personnes à votre travail vont venir et vont se confier à vous. On va dire, mais pourquoi ils viennent parler ? Pourquoi il vient me parler ? Dans le cœur de l'homme, il y a un vide en forme de Dieu. Il y a un vide en forme de Dieu, disait Pascal. Et ce vide-là, quoi qu'il en soit, quel que soit le moment, il cherchera toujours à être comblé. Il cherchera toujours à être comblé. Et dans les personnes que l'on peut croiser, que l'on peut connaître, il y a un vide en forme de Dieu. Et ce vide-là, tôt ou tard, combien de personnes, moi je... J'en ai déjà parlé, mais vraiment une collègue au travail, toujours, elle nous parle de choses spirituelles, c'est incroyable. Mais ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Et toujours. Et elle vient et elle me parle de choses spirituelles. Et elle sait que je suis croyant. Et moi, j'essaie toujours de placer une petite parole, un petit... Mais en même temps, il y a le cœur de Dieu. Et il y a ce que la personne peut accepter, ce que la personne peut vouloir. Et Paul ne s'arrêtait pas uniquement au fait qu'il a été, et le but peut-être, on disait, oui, mais voilà, son objectif c'est de faire le plus grand nombre de convertis, et ça peut nous interpeller nous aussi en tant que chrétiens. Est-ce que notre objectif c'est de voir le plus grand nombre de personnes qui viennent à Christ? On aimerait bien voir ça. On aimerait bien voir des foules venir à Jésus-Christ. Mais Paul donne dans le passage, dans ce qui suit, ce n'est pas pour baptiser, mais c'est pour annoncer l'évangile. Et Paul est venu annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Son rôle et sa mission, c'est d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et j'aime ce passage par lequel Jésus nous donne ce rôle-là, il parle du semeur. Le semeur, il va semer. Il va semer, et certaines semences, elles tombent dans la terre dure, d'autres tombent sur le chemin, d'autres tombent dans les ronces, d'autres tombent sur de la bonne terre. Mais il a semé. Et notre appel en tant que croyant, c'est de semer la parole de Dieu. Nous ne savons pas si elle va porter du fruit. Je ne vais pas regarder chaque graine, est-ce qu'elle va pousser, est-ce qu'elle ne va pas pousser. Dieu nous appelle à semer. En aussi grand, en tous les moments, toutes les occasions qui peuvent se proposer à nous, de pouvoir semer. Parce que le maître de la moisson vient, il arrose cette terre. Et si rien ne pousse dans cette terre, parce qu'un grain ou deux sont poussés, semer la parole de Dieu, ce n'est pas se soucier de ce qu'elle va produire. Ce n'est pas se soucier de la manière dont elle va pousser. C'est se soucier de ce que la parole de Dieu se répand, se fait connaître. Parce que Christ est la vérité dans ce monde et c'est lui qui touche le cœur. C'est lui qui touche les âmes. C'est lui qui sait attirer à lui une personne, une autre, en fonction de la situation dans sa vie. Peut-être un passage qu'on aura cité, peut-être une parole de consolation, peut-être quelque chose qu'on aura fait en consolation pour une personne. Tout ça, ça peut donner une occasion à Dieu, une occasion à Christ de se glorifier. Ce n'est pas dans ce que nous faisons que nous avons, que ce n'est pas ce que nous faisons qu'il y a de l'importance, c'est ce que nous sommes dans ce monde, c'est ce que nous sommes autour de nous, ce que nous sommes autour de nos amis. Et Paul disait donc ce n'est pas pour baptiser mais pour annoncer l'évangile. Quelle différence est-ce que ça fait? Ben, ça fait que des fois ben, on veut faire du chiffre, entre guillemets, mais c'est pas le but. C'est pas le but. Le but c'est que Christ soit glorifié. Le but c'est pas de se comparer aux uns aux autres, de savoir si l'un a fait plus que l'autre. C'est de marcher sur le chemin que Christ nous a donné. De savoir exercer les dons qu'il nous a donnés. Et c'est bien parce qu'on parle en ce moment des dons et des talents par rapport aussi, de manière, aux dons artistiques, on va dire. Et c'est une bonne occasion aussi d'exprimer de manière différente ce que l'on a au fond de nous pour Dieu. Parce qu'au fond de nous, il y a quelque chose qui ne rêve que de s'exprimer. On ne cherche pas à savoir si chaque graine qu'on va semer répond à l'appel de la vie. Mais si celui qui arrose aura suffisamment de quoi voir une récolte, aura suffisamment de quoi voir pousser toutes ces graines-là. Et lorsque Christ parle de ceux à qui il a donné le talent, il leur dit, mais j'ai donné à l'un il a donné 5 pièces, à l'autre 10 pièces, à l'autre 3 pièces, à l'autre 1 pièce, et l'un il l'a gardé. L'un il l'a gardé et il leur dit, mais tu aurais mieux fait de le mettre à la banque, parce qu'au moins, avec les intérêts, j'en aurais retiré quelque chose. Ce n'est pas une histoire juste d'argent. C'est une histoire de fruit qui peut progresser, mais qui ne progresse pas parce que nous, on le veut, qui progresse parce que, par notre semence, on jette notre pain à la surface de Dieu, des eaux, et avec le temps, tu le retrouveras. Jette ton pain à la surface des eaux, et avec le temps, tu le retrouveras. Et je pense, j'ai vraiment de plus en plus que l'impression que tout cas, c'est l'impression aussi, peut-être, qui est personnelle, c'est que même dans le milieu du travail, tout ça, il y a des fois la peur de témoigner. De se dire, mais la peur, quand je parle de témoigner, je veux dire d'être un témoignage. D'accord ? J'en ai déjà parlé, il s'agit d'être des témoins. Pas juste de témoigner, mais fais de nous des témoins, Seigneur. Et il peut y avoir cette peur au fond de nous, de dire, mais je ne sais pas, j'ai pas le droit ou autre chose. Il ne s'agit pas de braver l'interdit, mais d'être un témoignage en l'honneur et à la gloire de Dieu. Comment entendront-ils parler si personne ne leur parle ? Comment entendront-ils si personne ne leur parle ? Et là encore, il s'agit d'être avant de faire. Être le sel de la terre, être la lumière du monde. Le sel, quand vous mettez du sel dans... Alors bien sûr, le sel, ça a cette connotation de salaire dans la parole de Dieu, c'est-à-dire de valeur, parce qu'on payait on payait aussi les soldats avec du sel. On ne fait pas ça aujourd'hui. Hein. On va se poser des questions. Aujourd'hui, on met le sel dans nos salières. Et quand on met ça dans un plat, on est content quand ça rajoute un goût salé. Mais si on tombe sur un morceau de sel qu'on se casse une dent, on ne sera pas content. Le but, c'est que le sel se fonde. C'est que le sel se dissout. Et qu'il fasse corps pour imprégner, pour être une empreinte. Pour être une empreinte, pour du goût salé, on va dire, mais pour être cette empreinte-là. Et nous hommes, nous autres, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes une empreinte de Christ dans ce monde. Nous sommes appelés, en tout cas, à être une empreinte de Dieu dans ce monde. Être le sel de la terre et partager l'amour de Christ aux autres. Et Paul dit encore une chose dans ce passage. C'est qu'il dit, ce n'est pas avec la sagesse du langage qui s'est présenté à eux. Donc ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Sans la sagesse du langage, que nous soyons capables, que nous nous voyons capables ou que nous nous voyons incapables, Dieu a un rôle, a un plan et a un projet pour nous. Pour chacun d'entre nous. Et son objectif, c'est de nous placer, pas dans une case. Il ne veut pas nous enfermer. C'est au contraire de nous libérer. De nous libérer à la foi, de nous libérer à la vie. De nous libérer de tout joug, de toute maladie. Mais c'est d'être à une place dans laquelle tout ce que Dieu a placé dans notre vie pourra s'exprimer pleinement. Pourra trouver son arc-en-ciel. Et la prédication de la croix ne repose pas sur la puissance du raisonnement. Et à ce moment-là, il y avait... Donc Paul parlait à des Grecs, il parlait à des Romains, des hommes qui raisonnaient, qui parlaient, et combien de fois il m'est arrivé, moi, de parler avec des gens. Et c'était... À la fin, je me sentais vidé. Je me suis dit, peut-être j'aurais dû me taire. Peut-être il y aurait eu quelque chose d'autre que j'aurais dû faire. Et peut-être que des fois le témoignage est là parce qu'on se sent coupable de ne pas témoigner de Dieu. Il faut vivre pleinement notre foi en Jésus, pleinement être cette empreinte de Dieu dans ce monde, être cette empreinte de Dieu, marcher dans ses pas et marcher avec lui. Il ne s'agit pas de chercher sa propre gloire, de chercher ses propres intérêts. Ce n'est pas ce que je sais faire, ce que je peux faire, la manière dont je joue d'un instrument ou de la manière dont je sais faire une chose ou une autre. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est de ce que Christ peut faire dans la vie d'une personne. Et honnêtement, franchement, j'ai vu plusieurs personnes venir à Jésus. Si un jour j'ai pu leur témoigner, ce n'est pas à cause de mon témoignage qu'elles sont venues à Dieu. Excusez-moi, je vous avoue quelque chose. C'est pas à cause de mon témoignage qu'ils sont venus à Dieu. C'est par le témoignage du Saint-Esprit dans leur cœur, au moment où il leur a été donné. Et peut-être ce témoignage qui a été donné a tracé quelque chose. Mais ce n'est pas le grand tableau que Dieu a pour la vie d'une personne. Le grand tableau que Dieu a pour la vie d'une personne, c'est bien autre chose. C'est bien plus vaste que ce témoignage que nous donnons. Mais c'est une couleur dans ce tableau. C'est une couleur dans ce tableau que Dieu veut peindre pour la vie d'une personne. Déjà du temps d'Abel et Caïn, Caïn se présente à Dieu avec son offrande, et Abel avec son offrande aussi. Et il n'y a visiblement pas de réponse, de raison pour laquelle Dieu peut refuser l'offrande de Caïn et accepter celle d'Abel, si ce n'est que Abel n'a rien fait par rapport à cette offrande. C'est un agneau, tandis que celui de Caïn, c'est celui par lequel il avait souffert, il avait transpiré. Il a offert des produits de la terre, il avait transpiré pour tout ça, il a offert cela à Dieu. Parce que Dieu ne veut pas de nos offrandes de chair, mais il veut des offrandes de notre esprit, des offrandes de reconnaissance de ce que lui a fait, de ce que lui a accompli. Et la volonté de Dieu, elle passe comme ça. Elle passe. Et nos projets, ils sont souvent comme ça. Un peu comme la sonde Philae autour de la comète. La comète va, et alors, nos projets, souvent, ils sont comme ça. Et Christ disait, ce que je veux, c'est faire ta volonté. Rentrer dans ta volonté. Rentrer dans tes projets. Rentrer dans tes rêves. Rentrer dans tes désirs. C'est nous poser sur la volonté de Dieu et nous laisser conduire par la volonté de Dieu. Autrement, c'est fatigant. Et l'objectif de Paul, il est clair. Que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Comment est-ce que la croix de Christ peut être rendue vaine? Tout ce que nous avons reçu, nous le tenons de Dieu. Nous le tenons de Dieu. Et l'œuvre de la croix ne s'accomplit pas dans la gloire de l'homme. Il ne s'accomplit pas dans nos mérites. Il ne s'accomplit pas dans ce que je peux faire. Mais il s'accomplit, Paul dit, par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. Et moi, ça me réjouit. Parce que je peux témoigner, je peux me poser 36 000 questions. Mais je prie Dieu pour ceux qui sont encore à sauver. Mais je sais que c'est l'œuvre de Dieu de les sauver. C'est l'œuvre de Christ de les sauver. Ce n'est pas mon œuvre. Ce n'est pas notre œuvre de sauver les gens. C'est son œuvre à lui. Notre œuvre à nous, c'est de semer la parole dans la vie des gens. Et des fois, nous nous trompons de rôle. Parce que peut-être par notre témoignage, nous voudrions avoir la joie de voir que notre témoignage a porté beaucoup de fruits et peut-être gagner un peu d'orgueil derrière. Je ne juge personne. C'est ma propre expérience. C'est peut-être aussi ce que j'ai vécu. C'est même certainement ce que j'ai vécu. Avoir le rêve de se dire, voilà, moi j'ai amené quelqu'un à Christ. Gloire à Dieu! Mais c'est Jésus qui amène quelqu'un à ses pieds. C'est Jésus qui l'amène à ses pieds. Et ce n'est pas un autre. Et sur la croix, celui qui se tenait, ce n'était pas nous. C'était Jésus. Et ce n'était pas un autre. Ce n'était pas quelqu'un qui a pris la place de Jésus. Autrement, Dieu serait un menteur. Et il n'est pas menteur. Il a envoyé son Fils pour mourir à la croix, pour que notre péché soit pardonné, pour que la distance qu'il y avait entre lui et nous puisse être effacée, et pour que nous puissions aller de l'autre côté et saisir sa main, et saisir sa grâce, et voir les choses d'une manière nouvelle, et voir notre vie transformée, et le voir à l'œuvre dans notre vie. Il n'y a rien de plus glorieux que de voir Dieu à l'œuvre dans notre vie. Et moi, je me réjouis de ce témoignage que j'ai reçu, où elle dit, mais je vois les choses de manière tout à fait complètement différente, si j'avais su avant. Je vois les choses tellement différemment. Et un jour, nous aussi, nous avons vu les choses différemment. Ne l'oublions pas. N'oublions pas que cette croix de Christ, que cette croix par laquelle Christ est passé, cette croix devant laquelle les disciples auraient aimé sauver Jésus. Certains ont coupé l'oreille d'un soldat, Jésus a réparé. D'autres ont... Tout un tas de choses. Les disciples auraient voulu sauver Jésus. Mais ils n'ont fait qu'une seule chose. Ils se sont enfoncés dans leur péché. Ils se sont enfoncés dans leur péché. Et Pierre, qui était zélé, a été enfoncé dans le péché. Il a été enfoncé dans le péché au point qu'il a renié Jésus. Et c'est terrible. C'est terrible que quelqu'un en vienne à renier Jésus. Parce que Christ dit, celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai devant Dieu. Et Pierre sait tellement cela. Il sait tellement ça qu'il se dit, ça y est, c'est fini. Ma vie est terminée. Je ne peux plus avoir part à la grâce de Dieu. Je ne peux plus avoir part à ce salut de Jésus. C'est ce que Paul pense certainement dans ce moment-là, parce que Christ, lorsqu'il l'appelle, lorsqu'il ressuscite par la puissance de Dieu, pas par la puissance des hommes, par la puissance de Dieu, lorsqu'il ressuscite, il dit aux femmes, allez chercher mes disciples et allez le chercher lui, Pierre. Il n'était plus parmi les disciples. Il n'était plus parmi les disciples. Quel que soit le péché dans lequel nous puissions nous être enfoncés, Dieu est puissant pour être celui qui vient nous chercher. Parce que la mort a été dans les profondeurs, là où aucun homme, aucune femme n'a pu aller, dans les profondeurs du péché. Elle a été dans les profondeurs de la nature pécheresse de l'homme et elle a extirpé chacun et chacune d'entre nous pour revêtir la gloire de Dieu, pour nous revêtir de la gloire de Dieu, pour marcher avec lui, pour voir notre vie transformée, pour réaliser que cette caverne dans laquelle le péché nous enfonce, cette caverne dans laquelle nous étions, cet antre dans laquelle nous étions, nous sortons. Et à la lumière, toutes choses paraissent différentes. Et je suis sûr que si j'interroge chacun et chacune d'entre vous, je l'espère en tout cas, on aurait tous un témoignage à donner par rapport à ça. On aurait tous un témoignage à donner sur la manière dont, avant, nous étions ta-ta-ta-ta-ta, et aujourd'hui, quand Christ a touché notre cœur, c'est devenu carrément différent. L'amour de Christ a touché notre cœur et nous a délivrés de tout l'aveuglement qu'il y avait auparavant. Et Christ sur la croix, c'est la réalité par laquelle la résurrection a été possible. Christ mort sur la croix, c'est la résurrection et la puissance de Dieu sans qu'aucun homme, sans qu'aucune main humaine n'ait pu ramener le corps de Christ à la vie, sans qu'aucune tache de péché n'ait été en mesure de toucher ce corps et de le souiller. Et Christ nous appelle à la vie, il nous appelle à la vie par sa résurrection. Et il appelle les hommes à la vie par sa résurrection, mais c'est lui qui appelle. Et comme on en a parlé, Paul a été lui-même appelé un jour, et c'est celui qui a par la suite appelé les autres. Et rappelle que Christ nous appelle à la vie, que Christ est notre salut, que Christ est notre délivrance, que Christ est notre force, que lorsque le chèque se présente à nous, à répétition, Christ est celui qui peut donner une toute autre tournure à notre vie. 2 Corinthiens 13, verset 4, Christ a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers nous, pour agir envers vous dans le passage. L'œuvre de la croix, c'est l'aveu de notre impuissance. C'est l'aveu de l'impuissance de l'homme à pouvoir se sauver lui-même. Et si aujourd'hui, si ce matin, tu te dis, j'ai tout essayé, j'ai essayé 36 000 choses, je ne vois pas la solution, Christ est la réponse. Christ est la réponse par laquelle les choses peuvent devenir différentes. Et moi, je me rappelle aussi ma conversion, et j'en ai déjà témoigné, dans une chambre universitaire où j'étais. Je me suis mis à lire la Bible Parce que Dieu, certainement, Dieu avait fait un travail dans ma vie, mais je ne savais pas jusqu'où ça pouvait aller. Et je me suis dit, ben, il faudrait que je prie. Et je me rappelle de ce moment. Et je veux m'en rappeler de ce moment dans lequel j'ai prié. Et je me suis dit, mais t'es fou! Mais t'es fou! Tu parles seul, là! Mais je vais quand même essayer. Et j'ai dit, toi Dieu, je ne te connais pas, je ne sais pas. Je ne sais pas très bien comment m'adresser à toi, mais voilà. Si vraiment tu existes, si vraiment j'ai besoin de toi. J'ai besoin qu'il y ait quelque chose qui se fasse dans ma vie. Et ce que j'ai vécu par la suite, ce ne sont pas les mots qui peuvent le décrire. J'ai toujours du mal à décrire comment ma rencontre avec Jésus, comment la marche avec Jésus s'est passée dans la suite de ce moment-là. Parce que c'était l'impression qu'il y avait des bras qui écartaient toute chose autour de moi, et que je passais au milieu, et que d'un coup, c'était une impression, c'était quelque chose que je ne peux pas décrire avec des mots. Et ça, c'est le témoignage de l'Esprit qu'on peut recevoir dans notre vie, qu'on peut vivre dans notre vie le jour où on donne son cœur à Dieu. Le jour où on donne son cœur à Jésus. Le jour où on reconnaît que sur cette croix, ce n'était pas un autre, c'est Jésus qui était sur cette croix. C'est Jésus, il fallait que ce soit lui. Il fallait que ce soit lui qui n'avait rien fait. Il fallait que ce soit lui parce que c'était le seul. C'était le seul qui n'avait commis aucun péché. C'était le seul qui pouvait briser la puissance de la mort. C'était le seul qui pouvait briser ce voile qui nous séparait de Dieu. C'était le seul qui pouvait exercer cette puissance-là parce qu'il était sans péché. Parce qu'il était sans péché et parce que la mort ne pouvait pas le retenir, nous dit la Bible. Il a été voir la mort ne pouvait pas le retenir. Elle peut retenir chacun et chacune d'entre nous, mais Christ, elle ne pouvait pas le retenir. Elle ne pouvait pas le retenir. Il fallait que ce soit lui à cette croix. Il fallait que ce soit lui à cette croix qui n'a commis aucun péché, qui meurt, visite les profondeurs et soit renvoyé de ces profondeurs pour briser la puissance de la mort. Pour briser la puissance de la mort. Et qu'il soit glorifié pour vivre, pour être à la gloire du Père, à la droite du Père. La croix de Christ, comme c'est bon de parler des choses de Dieu et de réaliser combien il a accompli des miracles. Le miracle de notre vie, ce n'est pas uniquement, mais ça puisse accompagner de la guérison et tout un tas de choses, c'est le fait que nous soyons enfants de Dieu. C'est le fait que nous qui étions inconnus, qui étions étrangers à la grâce de Dieu, étrangers à l'amour de Dieu, nous ayons pu être attirés par cet amour, nous ayons pu passer le voile et nous recueillir auprès du Père. Et pouvoir venir et nous recueillir auprès de Dieu. Parce qu'il est notre sauveur. Un peu plus loin, dans 1 Corinthiens, au chapitre 2, et je crois que c'est un passage qui va intéresser nos amis qui font les ateliers artistiques de peinture cet après-midi. C'était pas trop fait exprès, mais... Comme il est écrit, donc chapitre 2, verset 9 de 1 Corinthiens, comme il est écrit, « Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par son esprit, car l'esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. » Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Et nous avons cette grâce de pouvoir nous approcher de Dieu par l'Esprit de Dieu et de pouvoir toucher aux profondeurs de son amour. Aux profondeurs que peut-être les mots ne seront pas là, peut-être les larmes couleront, peut-être certainement la joie s'exprimera, mais ces profondeurs de Dieu dans lesquelles nous n'avons pas pied, dans lequel nous ne pouvons pas dire « c'est moi qui flotte », mais c'est Dieu qui me tient. C'est Dieu qui me tient. Tant que je suis sur la terre, tant que je marche, tant que je me repose sur mes fondements, tant que je me repose sur ce que je sais faire, sur mes capacités, sur mes compétences, je suis là bien sur mes deux jambes. Mais Dieu a conduit le prophète et il a appelé à avancer dans l'eau tourante. Et l'eau était quelque chose qui arrivait sur ses pieds, sur ses genoux. Et à un moment donné, il ne pouvait plus tenir parce qu'il était emporté par le courant. Et Dieu nous emporte dans son courant d'amour, dans son torrent d'amour, pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous appeler en aussi grand homme que nous sommes, et les hommes et les femmes qui sont au dehors aussi pour les appeler, parce qu'il les recherche. Être enfant de Dieu. Être celui ou celle par qui la semence a été semée, mais pas forcément le seul, parce que d'autres semences sont là, parce que d'autres personnes sont là pour semer, mais être un semeur, une semeuse pour Dieu, pour l'œuvre qu'il veut accomplir, pour que lorsqu'il arrive, quand il arrose, quand il voit ces plantes qui poussent, il se dit « quelle belle semence, quelle belle semence et quelle belle moisson il y aura ». Amen. Seigneur, nous tenons devant toi parce que nous savons que la moisson, Seigneur, ce n'est pas nous qui pouvons la produire, ce n'est pas nous qui pouvons la faire. Nous savons que la semence, Seigneur, ça tu nous as appelé, Seigneur, à la faire. Tu nous as appelé, Seigneur, à être ce semeur, cette semeuse et aussi à ce que nos cœurs et nos vies soient transformés, que notre vision soit constante et dirigée, Seigneur, par toi, que notre volonté soit mise au diapason de ta volonté. Et que nos projets, Seigneur, soient mis au diapason de tes projets. Que tu sois, Seigneur, celui qui dirige et qui conduit nos pas. Et parfois, peut-être, on peut connaître la tempête. Parfois, on peut connaître, peut-être même des insultes, parce que l'on parle, parce que l'on a une conviction, parce que l'on a une foi. Mais quelle satisfaction d'être intègre à ta volonté. D'être intègre à notre roi, d'être intègre à notre bienfaiteur, d'être intègre à toi, Seigneur. Quelle satisfaction de pouvoir venir à toi sans culpabilité, en sachant que nous avons accompli pleinement, Seigneur, ta volonté. Chasse, Seigneur, l'orgueil, chasse la crainte de nos cœurs, chasse la culpabilité, chasse la frayeur qui voudrait s'emparer de nous parfois, Seigneur, et donne-nous de pouvoir, comme dit les disciples, annoncer ta parole en toute assurance. Annoncer ta parole en toute assurance, quelle que soit la menace, quel que soit le doute, quelle que soit la crainte, donne-nous d'annoncer ta parole, Seigneur, en toute, en pleine assurance, Seigneur. Te bénissons, Seigneur, pour cette semence, la semence de ta parole, Seigneur, dans nos cœurs. Et te prions, Seigneur, de lui faire porter du fruit. Te prions, Seigneur, que toi qui délivres et qui sauves, Seigneur, tu sois celui, Seigneur, qui trouve cette fraye chemin, Seigneur, vers les hommes et les femmes qui ont des oreilles, Seigneur, qui n'entendent pas, qui ont des yeux qui ne voient pas, par peut-être une parole, un acte, quelque chose que tu nous as donné d'être en mesure de faire pour ceux qui sont autour de nous. Merci, Seigneur, de rendre nos cœurs malléables à l'action de ton esprit, de rendre nos vies, Seigneur, disposées à la vie de ton esprit. Saint-Esprit, trouve le moyen, trouve le passage par lequel tu peux, Seigneur, témoigner par nous. Merci de ta grâce et de ta bonté. Merci, Seigneur, de ta persévérance, Seigneur, envers nous. Merci parce que, Seigneur, chaque jour, nous avons besoin, Seigneur, de ton amour. Chaque jour, nous avons besoin, Seigneur, du renouvellement qui vient de toi. Et nous te bénissons, Seigneur, parce que c'est toi qui l'accomplis, c'est toi qui le fais. C'est toi qui le réalises, Seigneur, pour que nous ne soyons pas des hommes et des femmes de la chair, mais des hommes et des femmes de l'Esprit. Des hommes et des femmes qui marchent avec le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen.
Amen.